Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, merci, merci encore à tous d'être toujours plus nombreux à l'écoute de ce podcast. Merci d'avoir joué le jeu. Pour ceux qui se sont procurés la BD, me rétribuer de cette façon-là, ça me permet de continuer les podcasts, puisque je n'ai pas besoin de travailler à côté de ce que j'aime faire, de ma passion, qui est de faire des BD ou des bouquins, et donc du coup de me dégager du temps pour faire ces podcasts. Donc je vous en remercie. Je vous en remercie tous profondément. Merci beaucoup. Alors, podcast aujourd'hui qui va être très... voilà, on va aller un peu dans tous les sens, mais c'est un peu comme ça à chaque fois, vous le savez. Rien n'est jamais préparé. Tout est un peu à la régalade, comme on dirait dans le sud-ouest. À l'improvisade, comme dirait Cyrano. Je vais vous... C'est quoi la phrase ? Je vais vous déclamer à l'improvisade quelques vers de ma propre, je sais plus quoi. Bon, bref. D'ailleurs, il faut voir ce film. Hein. Il faut voir le film adapté de la pièce d'Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac avec Depardieu. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Quand j'étais gosse, c'était le seul film, a priori, destiné à un public adulte et mature et littéraire qui, moi, me régalait. Mais parce que j'étais très sensible, je comprenais ce qu'il y avait derrière Cyrano. Vous savez, c'est une figure que je convoque régulièrement. Il y a Les Visiteurs, il y a le film Les Visiteurs, il y a Cyrano. Et ce sont beaucoup des films où vous avez quand même une punition du moderne et du cuck par un type mal dégrossi à l'ancienne. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est Les Visiteurs, c'est ça le pitch, quoi. Alors, ce sont des films différents. Dans Les Visiteurs, ce sont des mecs qui sont envoyés du Moyen-Âge dans le présent pour venir punir la médiocrité moderne. D'ailleurs, c'est un film qui a un propos très, très, très anti-moderne. J'en ai parlé dans le bouquin que j'ai écrit, que j'ai co-écrit avec Julien Rochdy, mais c'est vraiment un film dont le plaidoyer central est la critique de l'homme moderne, d'à quel point c'est devenu une merde. Et d'ailleurs, on se régale, on passe tout le film à se régaler de voir, comme il s'appelle, Jean Reno, incarner ce chevalier, être absolument dépité et dégoûté de voir à quel point les hommes modernes sont des merdes, sont des cucks, sont vraiment des types qui ne valent pas un sou, quoi. Puis alors, il est montré comme ayant une force surhumaine, comme ayant beaucoup plus de courage qu'eux, beaucoup plus de valeur. Et c'est vraiment un film que je vous encourage à aller voir. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont la ref, évidemment. Hein. Si vous êtes des enfants des années 80, vous n'avez pas pu passer à côté des Visiteurs. Mais je sais que dans mon public, il y a de plus en plus de jeunes. Je vois les statistiques, donc c'est une très, très bonne nouvelle. Donc écoutez les jeunes, si vous n'avez pas vu Les Visiteurs, vraiment, allez voir ce film. Monument du cinéma, très gros succès à son époque. Je crois qu'il est sorti en 92 ou 93 ou 91. Je sais plus. Et je l'avais vu, je m'étais absolument régalé. Je l'avais vu plusieurs fois au cinéma. Et voilà, je vous le conseille. Très, très, très bonne et belle critique de la modernité au détour de on va dire, de scènes très, très symboliques. Hein, si vous voulez, les mecs qui se font agresser, ce sont des parvenus, ce sont des psychiatres. C'est un peu tous les gens qui représentent la maladie moderne, quoi, la maladie de la modernité où il n'y a plus de hiérarchie. Donc c'est très, très... Ou en tout cas, les hiérarchies sont brouillées et ce n'est plus une société du mérite. Hein. Bon. Et si vous voulez, ça... D'ailleurs, la société médiévale est profondément une société du mérite, contrairement à ce qu'on a voulu dire, hein, et ce qu'on a voulu faire croire dans les livres d'histoire républicains. Donc, en fait, les livres d'histoire que vous avez lus à l'école. Le Moyen-Âge rétribue énormément l'individu actif dans la transcendance et dans la volonté de faire toujours mieux. Alors, au sein des artisans, eh ben, on devient maître artisan. Au début, on est compagnon. On est apprenti, puis compagnon, et puis à la fin, on devient maître. Hein, voilà, maître tailleur, maître charpentier, y a maître parfumeur, ce que vous voulez. C'était vraiment une société qui avait le culte de pousser les individus à la très haute excellence, qui était vue comme étant un hommage à Dieu. Pour vous la faire très simple, c'est vraiment l'esprit qui a prévalu pendant très longtemps dans les sociétés traditionnelles, en tout cas catholiques européennes. C'est Dieu a fait les hommes. Plus les hommes ont du talent, plus ils vont chercher au fond d'eux-mêmes la part de Dieu qu'ils ont en eux. Et plus en fait ils progressent dans la technique et dans la notion artistique et dans la réalisation de belles choses, plus ils se rapprochent de l'essence divine. Puisqu'il y a entre guillemets que... Enfin, c'est pas entre guillemets. Hop, excusez-moi. C'est pas entre guillemets, c'est il y a que Dieu qui est parfait. Et en fait, le fait de chercher la perfection, ben en fait, c'est un parallèle du fait de chercher Dieu. Donc c'est une société où les maîtres artisans, ou par exemple les vieux paysans, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup de terres, sont très 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 mis en valeur. Et d'ailleurs, vivent souvent mieux que certains seigneurs. Ça, c'est quelque chose qui est très occulté. Mais vous aviez des seigneurs qui avaient un niveau de vie et même de l'inconfort plus grand que des paysans parce qu'ils avaient plus de charges, plus de responsabilités. Donc, ils avaient des privilèges qui étaient très, très stylés. Ils pouvaient porter l'épée, mais ils devaient aller à la guerre. Ils avaient un devoir quand même d'exemplarité. Ils pouvaient pas faire n'importe quoi. Et certaines fois, ils étaient moins fortunés que certains paysans qui, eux, avaient juste leur famille à charge et possédaient beaucoup de terres et tout ça. Après, vous aviez le paysan sans terre, le cerf qui, à certaines époques du Moyen-Âge, pas durant tout le Moyen-Âge, mais à certaines époques du Moyen-Âge, avait une position peu enviable. Voilà, parce qu'il était vagabond, il ne possédait pratiquement rien. C'était pas la masse du paysan, hein, c'était quelque chose, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, c'était une minorité au sein de la condition paysanne. Comme dans toutes les sociétés, vous avez des gens qui sont des laissés pour compte. Bon, et au Moyen-Âge, il y en avait, évidemment. Mais si vous voulez, la très grande majorité des paysans vivaient très très bien, et parfois, les paysans embourgeoisés, si je puis dire, même si c'est un terme qui est un petit peu anachronique pour parler du Moyen-Âge, l'embourgeoisement, mais vous aviez certains paysans qui étaient vraiment, qui avaient une situation beaucoup plus enviable que certains seigneurs qui devaient, en fait, dépenser beaucoup d'argent pour, si vous voulez, maintenir une réputation. Il fallait que le château, il prenne pas la flotte, il fallait chauffer le château, il fallait avoir des percepteurs pour élever les enfants, enfin, c'était des dépenses assez extraordinaires. Donc, si vous voulez, on avait le culte comme ça de la hiérarchie, avec la notion d'étape dans la vie, hein. Vous commenciez, piéton, et puis palefrenier, et puis garçon d'écurie, et puis petit à petit vous évoluiez, vous aviez l'écuyer qui était déjà en fait une position déjà haute, hein, écuyer, contrairement à ce que les films hollywoodiens vous montrent, être écuyer c'était stylé, et ensuite vous deveniez peut-être chevalier à la force de vos couilles et de votre courage. Donc si vous voulez, c'est la même chose, mais à la force de votre détermination, de vos muscles, de votre endurance et de votre foi. Et si vous voulez, cette méritocratie, elle a été représentée, cette notion de s'élever, d'avoir des idéaux très forts qui ne se plient pas aux injonctions modernes, vous l'avez eu dans beaucoup, beaucoup d'épopées, de pièces de théâtre, de chansons de gestes, notamment la chanson de Roland dont je vous parle souvent, qui structure la chevalerie au Moyen-Âge, mais aussi, vous l'avez au XIXe siècle avec Edmond Rostand qui en fait... fabrique un personnage qui est inspiré d'un personnage qui a déjà existé, mais à qui on rajoute des espèces de faits d'armes qui sont en fait le fruit de l'observation d'Edmond Rostand dans la société. Alors, il faut savoir qu'Edmond Rostand, c'était un type du sud-est, c'était un provençal, je crois, qui a vécu très longtemps à Luchon dans les Pyrénées, et donc qui a été dans le sud-ouest et qui a vu ces espèces de Gascons complètement fous faire des trucs de Gascons. Et ça l'a beaucoup inspiré. Puis ensuite, il est allé à Paris. À l'époque, Paris, c'était pas la réunion des fils de pute. Faut savoir que Paris, à une certaine époque, c'était vraiment la ville de l'excellence. Pendant très très longtemps, ça a été la ville de l'excellence. Et vous aviez des personnages comme ça, haut en couleur, qui étaient des gens très verbeux, avec beaucoup de panache. Et donc, il a fait une espèce de mix entre la gouaille du sud-ouest et l'excellence et le génie du parler parisien. Et il a fait un personnage qui, en réalité, est un personnage hyper français, parce qu'il a le côté très élégant, avec beaucoup d'esthétique, beaucoup de notions esthétiques et beaucoup de profondeur du parisien d'avant, hein. Je sais que ça paraît fou, mais le parisien d'avant, c'était vraiment l'excellence, et le côté vraiment généreux, irruptif et poète un peu violent que vous avez dans le sud-ouest. Et en fait, en mélangeant ces deux esprits, donc en mélangeant le nord de la Loire et le Languedoc, il a créé ce personnage qui est un super français, voilà, qui est capitaine France, hein, et qui a les côtés géniaux, des nordistes, et les côtés géniaux du mec du sud. Et c'est pour ça que c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui en réalité est très français. Il a vraiment tous les attributs du français, à la fois médiéval et à la fois le français de la Renaissance. Et c'est un trait d'union que j'aime beaucoup entre, on va dire, la nouvelle monarchie absolue et les anciens rois et les vieux héritages de la vieille France royaliste et non monarchiste. Bref, parce qu'il y a une petite nuance entre les deux. Moi, je suis plutôt royaliste que monarchiste. Bon, bref. Et si vous voulez, ces films manquent beaucoup. Ces films manquent beaucoup parce que je vous ai souvent parlé, alors je ne vais pas revenir dessus, mais je vais vous donner de meilleurs exemples. Je vous ai souvent parlé de la notion très très importante que véhiculent les œuvres dans le rapport qu'elles ont à ce qu'on appelle les idéaux. Les idéaux, ce sont des exemples qui sont fabriqués pour élever les hommes. Et ces exemples, ils ne sortent pas de nulle part, ce sont des exemples qui ont été façonnés petit à petit, de manière très complexe, durant la préhistoire en fait. C'est-à-dire que durant la préhistoire, il y a eu une gestation comme ça, des comportements humains. Et en fait, pour que les humains ne deviennent pas des merdes, il fallait que les sociétés décident, les sociétés, mais de manière inconsciente, elles décident en fait qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Avant que Jésus-Christ et les grands monothéismes arrivent, il y avait déjà des notions de bien commun. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent la société était chaotique avant, pas chaotique, mais la société était complètement démoniaque avant que le christianisme arrive. C'est faux. Vous aviez des choses intéressantes dans les sociétés païennes parce qu'elles n'étaient pas forcément déjà toutes égales en termes de barbarie. Vous avez des sociétés païennes qui étaient très barbares et d'autres sociétés païennes qui étaient plutôt intéressante du point de vue du message qu'elle donnait. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le stoïcisme de Marc Aurèle est en fait pratiquement un pré-christianisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle, en fait, c'est la notion de faire attention au monde matériel et de pas trop s'accrocher au monde matériel. Et en réalité, c'est vraiment ce que promeut le catholicisme. Donc, vous n'avez pas tout à jeter, voilà. Après, la révélation christique, elle a une perfection en elle intrinsèque qui, à mon avis, est inégalée dans le monde païen. Il y a des choses intéressantes dans certaines sociétés du monde païen, mais la révélation christique, elle est inégalable parce qu'en fait, elle contient un niveau de pureté qui est sans égal. Voilà. Donc pour moi, c'est l'acmé absolu. D'ailleurs, c'est au moment de la révélation christique que l'Europe a pris son plus grand essor. Et en fait, c'est au moment où elle a lâché le christianisme qu'elle est devenue décadente et pourrie. Voilà. Même si avant le christianisme, elle a connu des formes de rayonnement, on peut pas le nier, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qu'a produit la société chrétienne dans l'ampleur. Voilà. C'est-à-dire que même si l'Empire romain est quelque chose, même si l'Empire romain d'ailleurs il finit chrétien, hein, mais je veux dire, l'Empire romain à son départ, il réalise des exploits, mais rien d'égalable à ce que vont être les grands empires chrétiens au moment où le catholicisme est à son acmé à la fin du Moyen-Âge. Bon. Et donc, si vous voulez, la formation de l'idéal, la création de l'idéal, c'est les sociétés ancestrales qui se demandent comment dégager des modèles qui puissent apprendre aux gens à avoir envie de devenir meilleur sans que ce soit quelqu'un qui le leur dise, sans qu'il y ait le côté vieux con qui te réprimande. Et en fait, pour ça, il a fallu que les anciennes sociétés, donc en fait nos ancêtres très très lointains, dans la nuit des temps, fabriquent des épopées avec des exemples à travers de ces épopées qui nous font ressentir quelque chose de positif quand le héros commet telle action. Alors, la première épopée mondiale connue, on la doit en fait aux Levantins, donc aux populations du Croissant Fertile, et c'est l'épopée de Gilgamesh. Voilà. Donc c'est une épopée qui nous a été parvenue par fragments. Alors on n'a pas l'intégralité du récit, mais c'est le premier récit écrit dont on ait les traces dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quelque chose d'absolument fascinant parce qu'on voit dans cette histoire qu'il y a les fondations de beaucoup d'autres histoires qui vont nous transporter. Et ça inclut, en réalité, ça inclut les mythes grecs, ça inclut les grandes épopées oratoires des griots africains, ça inclut les épopées gréco-romaines, la mythologie, les épopées chevaleresques. On a l'embryon de ce qui va se diffuser dans l'humanité comme histoire avec ce qu'on peut estimer d'un bien qui serait perçu de manière commune. Voilà. Et en fait, il y a un véritable universalisme, malgré tout, qui existe dans la conception du bien et du mal. Voilà. Il y a des choses, on sait qu'elles sont bien, il y a des choses, on sait qu'elles sont mal. Et ça va au-delà de « je suis blanc » ou voilà. Et par exemple, la coopération en est l'expression la plus primitive et la plus largement répandue. La notion de coopération que vous avez dans Predator, que vous avez dans Gladiator, mais que vous avez aussi dans l'Odyssée, que vous avez dans l'Odyssée d'Homère, que vous avez dans les mythes gréco-romains et dans la Bible. Et dans la Bible, et même dans le Coran, et dans toutes les traditions orales écrites ancestrales, la coopération, c'est quelque chose qui a été vu comme étant vertueux. Avec évidemment un héros. Parce que le héros, qu'est-ce que c'est finalement? Le héros, c'est celui qui va faire plus que les autres, il va faire plus de bien que les autres. Et en fait, pour qu'on ait des notions de degré de bien, il faut qu'il y ait un gentil plus gentil que les autres, si vous voulez, globalement. Voilà. Et en fait, on a façonné ces idéaux pour que les enfants de la préhistoire, quand ils écoutaient une histoire, ils sachent déjà très petits quels vont être les comportements qui vont être valorisés par la tribu. Je vous donne un exemple. On va fabriquer une histoire, c'est une histoire que je sors de derrière les fagots. Hein. Je vais l'improviser, mais elle va être très basique et vous allez me comprendre. Bon, imaginons qu'il y a une histoire, qu'on raconte une histoire avec un homme, il part à la chasse, il est très fort. Et en fait, c'est toujours lui qui attrape le gibier. Et au début, donc à chaque fois, il attrape le gibier, il le partage pas, il mange tout, donc il devient de plus en plus fort, de plus en plus musclé. Il court de plus en plus vite, imaginons. Hein. Et donc à chaque fois, les individus plus faibles de sa tribu, meurent de faim. Et lui, son cœur reste de pierre. Il a pas vraiment d'émotion en observant comme ça ses pères, ses prochains, dirait-on. Avec un langage un peu plus catholique, christique en tout cas, le sort de ses prochains ne l'importe pas trop. Lui, ce qu'il veut, c'est sa survie. Il est l'héritier de l'instinct de survie qu'a mis Dieu en nous, mais pas plus. Il n'a pas encore intégré la bonté. Bon. Et en fait, un jour, il est devenu tellement lourd et tellement fort et tellement rapide. Qu'en fait, il meurtrit son propre corps, c'est-à-dire qu'il se brise le tendon d'Achille, il a une rupture du tendon d'Achille, parce que trop musclé, parce que trop de stéroïdes, parce que trop de testo, et il s'effondre, comme ça, il s'effondre, et il ne peut plus chasser, et il en est réduit à être moins rapide que les faibles qu'il avait dépréciés, sous-estimés et laissés mourir à leur compte. Et voici que les faibles, qui eux avaient l'habitude de la faiblesse, peuvent se mettre à sa place et prennent pitié de lui et se disent « Lui ne sait pas ce que moi j'ai enduré en tant que faible, mais moi qui ai toujours été faible, je sais ce que lui endure en tant que fort qui est devenu faible. Et comme je sais quelle est la condition de faible, je sais à quel point il est inacceptable et je vais donner la viande que je vais réussir à chasser à cet homme. » Et là, cet homme qui avait toujours été fort et qui se retrouve plus faible que le faible qu'il y avait derrière lui, en fait, expérimente la faiblesse et se rend compte à quel point il est bien et il est heureux que les forts s'enquérissent du sort des faibles. Et pendant sa convalescence, où on s'occupe de lui le temps qu'il récupère, eh ben, les faibles vont lui donner à manger et puis il va rester... avec les faibles, et les faibles vont lui parler de leur monde, et en fait il va apprendre sur le monde des faibles, avec toutes les choses des fois négatives que ça peut contenir, et quand il sera guéri, alors je sais pas si on guérit vraiment d'une rupture de talon d'Achille, mais en tout cas quand il pourra remarcher, il sera deux fois plus fort qu'avant sa rupture du tendon d'Achille, parce que non seulement il a connu ce qu'était la vie d'homme fort, mais il a aussi connu ce qu'était la vie d'homme faible. Et en fait, au lieu d'être un, il est deux. Au lieu de n'être qu'un homme fort, il a été un homme fort, et maintenant il a été un homme faible, et maintenant il est les deux, pour toujours, pour le reste de sa vie. Donc il a une multiplicité de prismes qui lui permettent de voir la vie sous plusieurs angles. Et qui peut voir la vie sous tous les angles? Si ce n'est l'entité suprême qui est Dieu. Dieu, il peut voir ce qui se passe à l'instant T à tel endroit et ce qui se passe à l'autre instant T à tel autre endroit. Et en fait, vous, en tant qu'homme, quand vous vous mettez à la place de l'autre, vous vous mettez à acquérir l'embryon d'une compétence divine qui est de se mettre à la place du prochain. Et donc, ça vous rapproche de Dieu, car en fait, vous quittez l'entièreté de votre nature d'homme pour entrer dans une nature, certes à 99,9% d'hommes, mais à 0,01% divine, parce que vous imitez Dieu, vous imitez la bonté divine. Et en fait, on va construire à partir, j'imagine, de cette histoire imaginaire que je vous ai concoctée là, à l'improviste, on va de plus en plus complexifier les récits pour explorer de plus en plus les notions morales du bien commun que nous a transmis Dieu de manière naturelle. Parce que en nous, nous avons les deux choses. Nous avons la pente naturelle qui nous pousse à être égoïste et à laisser regarder les autres mourir en mangeant notre viande. Et vous avez l'autre versant, qui est le versant qu'on a gardé de notre essence divine, qui est notre capacité à transcender nos premiers réflexes et à être des hommes civilisés, des hommes bons, des hommes chrétiens. Et donc, si vous voulez, l'apprentissage de cette morale va beaucoup plus être compris par les individus que s'il y a quelqu'un qui représente une autorité qui vient vous voir et qui vous dit « Quand tu es fort, il faut partager ta viande parce que si tu le fais pas, c'est pas bien. » Bon, mais là, vous avez 90% des oreilles qui vont se fermer à cette proposition. Et en revanche, vous en avez 90% qui vont s'ouvrir à cette proposition si cette proposition est présentée de manière ludique et de manière démonstrative avec un exemple. Et plus cet exemple va être étayé littérairement, plus les images vont être belles, plus ça va être bien raconté, plus ça va transporter les hommes au-delà de leur condition basique, qui est celle d'être un tube digestif. Mais contrairement aux animaux, nous partageons avec les animaux cette notion d'être des tubes digestifs, donc en fait il faut manger, dormir et chier, comme les animaux. Mais à un moment, nous avons ce truc supérieur aux animaux, qui est que nous pouvons décider de maltraiter ou de bien traiter les animaux autour de nous. Voilà, pour faire le lien avec les animaux. Ou de bien traiter ou de maltraiter nos prochains. Alors évidemment, il faut le faire avec justice. Là, je ne vous parle pas du pardon aveugle pour toujours. Le pardon, pour être obtenu, doit être demandé. Je vous le répète, le pardon pour être obtenu doit être demandé. Si le pardon n'est pas demandé, il n'a pas à être fourni. Ou alors il peut être fourni de manière dissociée de l'acte de punition. Parce qu'on peut punir quelqu'un tout en l'ayant pardonné. Voilà. C'est ce que font les parents avec les enfants. Quand vous faites une bêtise, votre père ne va pas garder une rancœur contre vous ad vitam aeternam. En fait, en réalité, il vous a déjà pardonné, mais il doit vous punir pour votre bien. Bon. Et nous, les chrétiens, on doit être capable de faire ça, c'est-à-dire qu'on doit être capable de pardonner quelqu'un, mais de quand même lui administrer une juste punition qui lui permettra d'évaluer à quel point il a fait du mal. Et certaines fois, cette punition, elle est très sévère. Voilà. Donc, si vous voulez, le mythe, l'histoire, est là pour fabriquer une morale, pour fabriquer des repères, pour fabriquer une esthétique humaine globale partagée par l'ensemble des hommes. Et vous verrez que dans les récits originels, les récits qui appartiennent aux canons classiques de l'humanité, que sont les canons classiques ? Ce sont les récits qui ont été édifiés et qui ont été, si vous voulez, éprouvés et testés durant la longue gestation qui nous a séparés de la préhistoire de l'histoire, en fait. Parce que ça ne s'est pas fait d'un coup. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous regardez une histoire, elle est très souvent la légataire d'une morale. Et il faut bien identifier cette morale. Vous avez des histoires qui sont immorales aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté dans l'humanité. Vous aviez des histoires qui étaient un peu bizarres au niveau de la conception, de la façon dont ça se passe. Par exemple, des gens qui sont pris pour modèle alors qu'ils possèdent des esclaves. Je ne vais pas citer qui, mais vous avez compris de qui je parle. Ou des gens qui pratiquent le rapt et le viol, mais dans la loi religieuse. Donc moi, ce sont des histoires qui me paraissent quand même assez bizarres. Et vous avez des histoires qui, elles, par contre, sont vraiment l'exposition du mal, un plaidoyer pour le mal, un plaidoyer pour le mal. Vous avez des histoires comme ça qui sont un plaidoyer pour le mal et qui sont à contre-courant des histoires positives que nous ont léguées nos ancêtres. Voilà. Et en fait, chaque fois que vous regardez une histoire, il faut identifier, parce que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir, il faut toujours identifier quelle est la part de bien et quelle est la part de mal. Et vous avez des histoires où il y a beaucoup de parts de bien, et c'est très très bien. Vous avez des histoires où il n'y a que du bien, il n'y a que des bonnes choses à en retirer. Et vous avez des histoires où il y a un peu de mal, beaucoup de mal et que du mal. Et il faut avoir l'esprit suffisamment vivace et suffisamment connecté spirituellement pour pouvoir l'identifier. Je vais vous donner des exemples. Une histoire qui ne comporte que du bien, La Passion du Christ de Mel Gibson. Voilà, c'est un film qui vous expose par A plus B ce qu'est la bonté, ce qu'est la souffrance, ce que sont les sentiments les plus purs qu'on puisse voir dans le genre humain qui sont incarnés par Jésus-Christ. Ça, c'est mon opinion à moi en tant que catholique. Vous avez par exemple le Saint-Anneau qui vous avez par exemple le Cyrano de Bergerac, qui est une histoire à 90% très positive et à 10% un peu négative. Pourquoi 10% un peu négative? Parce qu'en fait, il y a la notion dedans d'orgueil. Et le personnage, en fait, est prisonnier de son orgueil, le personnage principal. Donc, même si on décrit ce personnage comme victime de son orgueil, on fait quand même à certains moments l'apologie de cet orgueil. Alors, c'est ce qui fait tout le suc de ce personnage, je suis pas en train de vous dire. Mais on est déjà dans quelque chose d'un peu plus humain, dans quelque chose d'un peu moins divin. Mais si vous voulez, c'est pas pour ça qu'il faut se couper de ça. Nous restons des êtres humains, nous ne sommes pas le Christ. On est censé lui ressembler. Mais on peut avoir comme ça des histoires qui se rapprochent un peu plus de nous parce qu'elles comportent une part d'imperfection, comme l'être humain en fait. Donc ce sont des histoires très positives. Vous avez Gladiator. Gladiator, c'est une histoire qui a 90% de bien, mais qui a 10% de mal. Même 30% de mal, 70% de bien. Pourquoi 70% de bien? Parce que ça fait l'apologie de la coopération, ça fait l'apologie de l'abolition des frontières raciales au service d'un idéal, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais ça fait l'apologie de la vengeance. Le personnage va aller jusqu'à la mort pour la vengeance et pour l'honneur, qui sont des idées en fait. Alors que peut-être qu'il aurait pu bâtir quelque chose de positif. Peut-être qu'il aurait pu, en restant vivant et en ne courant pas après la vengeance, faire quelque chose de plus constructif. Bon, le film aurait été moins drôle, il faut le dire quand même. C'est le côté commode qui se fait ouvrir la ventrelle et qui se fait ouvrir la gargante, pardon, avec son propre poignard à la fin. C'est génialissime, on a envie de voir ça, mais parce qu'on est des hommes, on n'a pas la sagesse des anges ni de Dieu. Donc si vous voulez, le commode, on n'a pas envie qu'il soit pardonné. On a envie qu'il prenne un stiletto italien dans la gorge. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que Gladiator, c'est une embrouille qui se passe en Italie. Hein. C'est une embrouille de Méditerranéen, quoi. Donc à la fin, il y a des couteaux qui sortent de la manchette. Quel enculé. Putain, mais par exemple, cette histoire, elle est très parlante. À la fin, Maximus... Bon ben, il en crève de sa vengeance alors qu'il est entouré de mecs bien. Il peut se taper Conny Nielsen, qui est absolument magnifique dans le film, qui doit être une des plus belles femmes scandinaves qui ait jamais existé. Enfin, il a un pote allemand, il a un pote noir. Est-ce que le mec est pas au paradis en fait? Est-ce que le mec il est pas dans la résolution de l'équation de la vie, comme dirait le Raptor? Est-ce que le type a pas tout compris? Et en fait, il est absorbé par cette vengeance. Alors, cette vengeance, elle nous régale. Parce qu'on a un peu le démon, les hommes. On a un peu le démon, quand même. Donc, on est content de voir le mec se faire éclater. Et si vous voulez, voilà. Et après, par ordre décroissant, vous avez des histoires. Vous avez des histoires qui sont très bizarres aussi. Hein. Vous avez des histoires où le gentil, on ne sait pas trop si c'est un gentil. Par exemple, le film... Je suis en train de réfléchir à... Dans le film Christophe Colomb, que j'aime beaucoup, 1492, avec Depardieu. Bon, ben Depardieu, il veut faire le bien, mais on voit bien à travers le film que, bon, il provoque aussi un peu de mal. Et il aurait pu le voir venir. Après, bon, on va pas s'abstenir de découvrir un continent parce que tu amènes des gogoles qui convertissent les Indiens de force, alors qu'on pourrait le faire par l'exemple et non par la menace. Donc, si vous voulez, bon, là, c'est pas un super bon exemple. Mais il y a des films comme ça. Par exemple, les westerns américains des années 50 sont très, très bizarres. Vous avez des personnages très monolithiques, hein, qui sont vengeurs, qui sont des durs à cuire, qui sont pas très sympas, alors qu'ils ont de la valeur en eux, mais qui font beaucoup de dégâts, quoi. Et les mecs, ils font beaucoup de dégâts. Alors oui, il y avait un film comme ça avec Robert Mitchum. Je crois que c'est Mitchum. Et oui, c'est Mitchum de La Nuit du Chasseur. Et comment il s'appelle et John Wayne. Comment s'appelle ce film où Mitchum est complètement alcoolique. C'est une espèce d'alcoolique à la dérive. Et c'est très très bizarre. Il y a des trucs. C'est vraiment une histoire qui parle aux protestants américains. Moi, je la trouve très très chelou cette histoire. Il y a La Prisonnière du désert aussi qui est très particulier. Vous avez John Wayne qui poursuit un indien, un chef indien, mais pendant presque 30 ans quoi, dans le désert, pour retrouver une femme qui a été enlevée. Western extrêmement bizarre. Quand vous êtes européen et que vous regardez ce film, enfin en tout cas quand vous êtes pas anglo-saxon, donc pas protestant, et que vous regardez ce film, c'est très très bizarre. Vous avez du mal à comprendre la morale, et est-ce que ce que je viens de regarder a vraiment une morale positive? C'est très très particulier. Et dans ce film, donc je sais plus comment il s'appelle, Fort Bron, non, je sais plus, Rivière Branco, je sais plus quoi, bon, Branco River, je sais plus, je sais plus, je confonds. Je suis pas spécialiste des films de John Wayne, mais pour La Prisonnière du désert, je suis sûr qu'il s'appelle comme ça, mais pour l'autre film, je sais plus. Et vous avez, putain, à un moment, il bute le père d'une femme qui finit par le rejoindre parce que, bon, les Indiens sont une plus... Alors, elle le pardonne. C'est très, très bizarre. Si vous voulez, dans une société méditerranéenne, au moment où John Wayne tue le daron de la gonzesse, la gonzesse, évidemment, tente de le séduire pour se venger et lui mettre un coup de poignard au moment où il passe à la levrette. Hein. C'est les histoires méditerranéennes, c'est ça, en fait. Hein. Les histoires américaines, c'est pas ça. Les histoires américaines, tu peux tuer le daron d'une meuf si t'es vraiment un gros patriote américain. La meuf se dit que les États-Unis d'Amérique, c'est plus important que son daron, et en fait, elle te pardonne. C'est très bizarre. Et après, tu vas manger un pumpkin et un burger, et tout va mieux. C'est très, très, très bizarre. Mais après, moi, j'ai pas un cerveau protestant. Je suis un catholique, je suis un catholique de naissance occitane et d'héritage castillan. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal avec les, j'ai beaucoup de mal avec les, le catharisme et le protestantisme et toutes les, et tous les schismes de la religion, de la tradition. Vous savez qu'une large part des Toulousains, parce que la gauche essaie de vous vendre les cathares comme étant le peuple toulousain, il n'y avait qu'un tiers de la population toulousaine qui était de la population, pardon, languedocienne, population du Languedoc, qui était cathare. Hein. C'était très très, c'était manifestement une minorité énorme, parce que 30% c'est pas rien, mais c'est loin d'être la moitié de la population, ou la majorité, comme j'ai pu l'entendre certaines fois. Vous aviez un tiers de la population qui était cathare, et c'était surtout d'ailleurs les élites qui s'ennuyait un peu et qui avait un goût comme ça pour la religion, pour la gnose, qui est une forme d'embryon de maçonnerie ou de dérivée maçonnique. Et si vous voulez, bon, ils ont été exterminés par les croisés du Nord, par les armées croisées du Nord. Et moi, je vous le dis, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de Toulousains qui, par identitarisme un peu bête, sont du côté des cathares. Non, les cathares étaient des merdes et il fallait que les francs, donc en fait les Français, puisque les Occitans n'étaient pas des Français, détruisent cette engeance et installent le catholicisme, le vrai, en Languedoc, ce qui nous a permis ensuite de bâtir le pays que nous avons bâti, qui est magnifique. Excusez-moi, je suis parti en tous les sens. Donc si vous voulez, vous avez des histoires comme ça qui sont des histoires qui ont... des passages très équivoques, voilà. Et vous avez des histoires, donc je vous disais, excusez-moi, qui défendent le mal, qui défendent en fait des types qui sont des enculés. Alors, bon, dans une mesure assez... dans une mesure assez... Donc là, je vous parlais des westerns, les westerns des années 50, où il y a vraiment une morale très particulière. Alors ça correspond sans doute à des traits culturels des Américains. Et vous avez des histoires, comme on en fait aujourd'hui sur Netflix, qui sont des plaidoyers wokistes. Par exemple, une histoire typiquement qui faisait l'apologie du mal, c'était... j'avais amené mon petit frère le voir à l'époque. J'avais un petit frère qui est... Enfin, j'ai toujours un petit frère, hein, il a 20 et quelques années aujourd'hui. Mais à l'époque, il était très jeune. C'était il y a 20 ans de ça. Non, pas il y a 20 ans, il y a 10 ans, 10-15 ans de ça. Je l'avais amené voir Arthur et les Minimoys. Mais sans savoir que c'était de Besson, moi j'avais cherché un dessin animé pour l'amener voir, bon, et j'étais tombé là-dessus. Et putain, dans Arthur et les Minimoys, mais il y a vraiment un plaidoyer pour la contestation de l'ordre traditionnel, la désobéissance complètement conne. Il y a quelque chose de très immoral, de très pourri. Vous avez beaucoup de films qui ont été faits. Il y a beaucoup de films qui ont été faits dans les années 90 qui étaient vraiment des plaidoyers pour la décadence. Et même dans les années 70, après mai 68, en fait, vous avez beaucoup de films qui étaient des plaidoyers pour la décadence. Vous avez eu notamment qui est très connu, Caligula. Bon, Caligula, c'est vraiment l'apologie de la décadence. Enfin, il y a un côté très... on se régale de regarder des décadents, mais c'est assez dégueulasse. Voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, on est dans le triomphe des modèles décadents. Alors... Si vous voulez, l'être humain a quand même il y a une espèce, si vous voulez, de... Comment vous expliquer ça? Il y a une espèce d'universalité du bon, du beau et du bon qui fait que vous ne pouvez pas complètement faire des histoires amorales. Vous pouvez juste détruire les héros. Vous pouvez juste ou les minimiser ou les... Voilà. Et si vous voulez, c'est pour ça que le cinéma de Marvel est un peu en train de perdre de la... des Marvel Studios, là. Il est un peu en train de perdre de la vitesse parce que ils font l'apologie de trucs un peu chelous. Ils commencent à mettre du wokisme. Ils commencent à mettre des trucs qu'on n'a pas envie de voir, en fait. Des personnages qui sont dans le refus de la transmission paternelle et qui doivent faire leur propre chemin... sans hériter un petit peu de la tradition. Donc en fait, ils ont le droit d'embrasser l'anus d'un yak. Voilà, parce qu'en fait, ils sont nés comme ça, il faut respecter my body, my choice. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc si vous voulez, on est un peu... Mais le public n'y est pas. Parce qu'en fait, le public, il n'y a pas à chier. Il aime, parce qu'on a quand même... Enfin, le wokisme, il a quel âge ? Il a 10 ans, le wokisme, c'est ça ? Bon, le christianisme en a 1500 et les épopées gréco-romaines elles en ont 2500 si vous voulez. Donc si vous voulez, ça fait très très longtemps que on se transmet les notions de bien et de mal, donc ça résiste encore. Vous n'avez pas complètement le triomphe des histoires à la con, et d'ailleurs les histoires qui se veulent être un contre-pied aux histoires classiques s'effondrent. La masterclass Seigneur des Anneaux de Tolkien puis de Peter Jackson, ça a eu le succès que ça a eu parce que c'est directement inspiré de la tradition des bons et des méchants. Et d'ailleurs, y en a plein qui me l'avaient dit. Moi, à l'époque, je vous avais dit, je suis persuadé, je m'étais pas renseigné sur le sujet, mais je vous avais dit, je suis persuadé que Peter Jackson est chrétien, sans savoir s'il était catholique ou pas. Et en fait, vous avez été nombreux à m'expliquer qu'en fait, c'était un fervent catholique qui priait en latin, donc un catholique traditionnaliste, qui a fait un récit profondément catholique conservateur, donc absolument pas un récit de gauche. Voilà. Donc, voilà. Les personnages ne deviennent pas des personnages bons parce qu'ils taxent les autres personnages de la Terre du Milieu pour redistribuer aux orques. Non. Ce sont des personnages bons parce qu'ils font des trucs bons. C'est-à-dire avoir du courage, refuser. Et Homer. Voilà. Et Homer qui continue. Qui, d'ailleurs, le nom fait référence directement à Homer, à l'Iliade. C'est un personnage qui va jusqu'au bout pour l'honneur, qui en fait est réprouvé par son roi, par le conseiller de son roi, par pratiquement tout le monde, et qui continue à lutter contre les orques alors que tout le monde lui crache à la gueule. C'est à peu près ce qu'on vit avec mon camarade, mon frère d'armes, le Raptor, hein, c'est qu'en fait... on lutte littéralement pour mettre à l'honneur les côtés positifs du pays dans lequel on est né, et le régime qui occupe ce pays nous crache à la gueule pour ça. Donc si vous voulez, moi je suis très très fier d'appartenir à la race des Homer, pendant que d'autres sont du côté de Grima et de Théoden sous l'emprise de Grima. Voilà. Pour faire un petit parallèle avec le Seigneur des Anneaux, comme vous savez que je suis même à l'instar du Raptor, hein, on est très très fan. Ismaïl, il est très très fan du Seigneur des Anneaux, mais parce que il y a l'exposition absolue de l'idéal et des codes de l'idéal, de la chevalerie, de la chrétienté, du bien. Et puis les meufs sont, voilà, il faut se méfier des meufs dans le Seigneur des Anneaux. Galadriel, elle pète son câble. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, les grands mythes ont laissé une empreinte, et en fait, les contre-mythes ont très très peu. Alors, ils ont la propagande avec eux, ils ont l'argent avec eux, mais ils n'arrivent pas à faire leur trou, et c'est pour ça que en fait, la première saison des Anneaux de Pouvoir s'est complètement effondrée, parce qu'en fait, et même Star Wars, là, ils ont dû supprimer un Star Wars, ils ont arrêté la saison, ils ont même supprimé des plateformes, de tellement que ça s'est effondré, parce que je l'ai pas vu le truc, hein, mais j'ai entendu ce qu'en disait Ismaïl. Il expliquait que voilà, qu'en fait c'était à base de Jedi lesbiennes qui se coupent des rastas, d'après ce que j'ai compris, au sabre laser. Bon, bref, donc le truc s'est complètement effondré. C'est une très très bonne chose, parce qu'en fait, au fond de nous, on a encore l'empreinte de ces grands récits, de ces grandes épopées. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, aujourd'hui, les personnes et les personnages qui nous stimulent sont des personnages qui sont directement héritiers de ces traditions, de ces épopées. Vous n'êtes pas, je pense, sans connaître l'existence de notre ami Baptiste Cheval, qui est parti à New York avec son drapeau normand pour aller affronter les champions new-yorkais, pour devenir le champion de la ceinture de boxe new-yorkaise. Mais typiquement, on est dans la table ronde. on est dans un truc très chevaleresque. C'est le gars, le palefrenier, qui sort de la Normandie, de la classe moyenne, de la Normandie oubliée, quoi, qui en fait se forge un destin à la force de ses couilles et de sa foi. Et je le prends souvent comme exemple parce que il est beaucoup plus jeune que moi et il parle, je sais qu'il parle à la jeunesse française. Donc vous qui êtes jeune, prenez-le pour exemple, regardez ce qu'il a réalisé. Il est parti de pas grand-chose comme vous tous. Il est allé voir les vieux chevaliers en la personne. Il est allé voir un vieux chevalier en la personne de Maxime Bossire, qui est un ancien très grand boxeur normand, qui a fait très grand honneur à sa région et à la France par ses résultats sportifs. Il est allé se former là-bas en tant qu'écuyer. Il a reçu la mission du conquérant de devenir à son tour un conquérant, pour faire référence à Guillaume le Conquérant, le Normand, le plus célèbre de Normandie. Et il est parti, non pas en Angleterre, aller éclater des Anglo-Saxons, mais il est parti aux États-Unis, aller représenter sa région et notre France éternelle, armé de sa foi et de ses poings. Et si vous voulez, il manque plus qu'à lui filer un bouclier et une épée, et vous avez un chevalier moderne. Voilà. Donc, ça me fait beaucoup rire quand la gauche vous dit les chevaliers, le pro-chevalier, quand on tourne cette figure à la dérision, alors que quand on a son expression la plus stricte dans la réalité, ben en fait, vous avez un giga-tchad, quoi. Voilà. Et il n'est pas le seul, hein, je veux dire... En ce moment, il est vraiment en train d'exploser sur les réseaux, donc c'est pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, allez vous abonner à son compte. Mais voilà, les héritiers, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous êtes un héritier de ces grandes histoires, plus vous serez naturellement poussé à savoir immédiatement qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, à être indépendant. Et en fait, toutes ces histoires, elles servent à vous donner, si vous voulez, pratiquement une forme de d'instinct immédiat de savoir quand est-ce qu'on veut vous enculer ou pas. Et en fait, l'homme moderne a perdu son instinct parce qu'en fait, comme il baigne dans le confort, il se rend plus compte. Il se rend plus compte du moment où il est en train de céder aux méchants et du moment où il reste un gentil. Pour vous parler de manière enfantine, c'est ça, quoi. Et il est très, très, très important d'avoir ces fondements. Plus vous multipliez les bonnes histoires, les bonnes références, plus naturellement vous allez être porté vers la sagesse et la connaissance du moment où les choses basculent et vous amènent vers un côté sombre, vers une pente un peu dégueulasse. Voilà. Et en fait, si on était plus à avoir ces réflexes-là et ces compétences-là, on serait moins à collaborer à la destruction de notre civilisation. D'où l'importance des grands mythes fondateurs et du principal mythe fondateur duquel découlent tous les autres mythes qui vous inspire, qui est celui de la chrétienté et du sacrifice, voilà. Et en fait, la chevalerie que vous adorez procède de la chrétienté, que malheureusement certains d'entre vous aiment un peu moins. Or, on ne peut comprendre l'essence de la chevalerie que si on comprend la chrétienté qui l'a fabriquée, qui l'a façonnée, voilà. Donc, si vous voulez, multipliez les références aux mythes fondateurs, aux canons classiques de l'héroïsme, de la figure du héros dans sa conception gréco-romaine puis ensuite chrétienne, avec les ajouts qu'a donné la chrétienté à ce héros. Oui, parce qu'avant, le héros chez les gréco-romains, il met des levrettes claquées et il rappelle pas le lendemain. Alors que dans le christianisme, il rappelle le lendemain. Le héros, il met une levrette claquée parce que c'est quand même un mec qui monte à cheval et qui met des coups, mais il fait des bisous. Il y a des préliminaires, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous en avais parlé dans un podcast qui vous a fait rigoler. Mais c'est ça. La différence entre Achille et un chevalier, c'est qu'Achille, il arrive avec son armure moulante. Il baise la sœur de son pire ennemi. À l'enculé. Il baise la femme ou la sœur de son plus grand ennemi. Et il rappelle pas le lendemain parce que c'est le fils du soleil, tu vois. Alors que le chevalier, c'est un mec responsabilisé, c'est moins un adolescent, parce qu'il y a quelque chose de très adolescent dans l'épopée gréco-romaine. Il y a un côté, même l'amour, il est très adolescent, c'est un amour immature, c'est un amour avec des pulsions et tu fais n'importe quoi. Alors que chez le chevalier chrétien, il y a la notion de fidélité. Le chevalier chrétien, c'est un daron. Le chevalier chrétien, c'est vraiment un daron. Et d'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, les héros sont des darons. Aragorn, c'est un... Non, parce que si vous voulez, les hobbits, c'est des enfants. Je veux bien qu'on essaie de les... Voilà. Les hobbits, c'est des enfants. Ils sont petits, ils font n'importe quoi. Et en fait, Aragorn, il part en sortie scolaire, en fait. quand ils trouvent les hobbits, ils se poursuivent dans la forêt, ils ont même pas de chaussures, ces fils de pute sans culotte courte, littéralement. Ils ont des coupes de cheveux de Beatles, ils savent pas se battre, ils sont pas dangereux, ils sont chapardeurs, menteurs, c'est des gosses, les hobbits c'est des enfants. Et en fait, le Seigneur des Anneaux, ça raconte l'histoire d'Aragorn, qui lui-même est un grand ado, et qui arrête d'être un ado. Je vais pas vous refaire une analyse du Seigneur des Anneaux, mais en fait, il devient père parce que ses gosses, c'est qui? Si vous voulez, c'est une famille recomposée, la communauté de l'anneau. Le nain, c'est le cousin un peu débile, c'est le cousin trisomique, mais on le garde parce qu'en fait, c'est un enfant de Dieu. Et il a ses propres capacités, il nous ramène à un côté quand même très organique, et il nous ramène à quelque chose de très pur, en fait, quelque part, tu vois. C'est un peu le cousin simplet de la famille. Vous avez Boromir, c'est le tonton raciste. Boromir, c'est le tonton raciste qui a pas de meuf. Et donc ça va mal. Ou alors il est veuf. Sa meuf est morte il y a très longtemps et du coup ça va pas trop. Ça se passait pas très bien à la maison parce que son daron lui faisait des super cadeaux et pas à son petit frère. Boromir, c'est le tonton raciste. Boromir, il est à la table à Noël. Il vous dit « Putain, il y a la mare des orques !» Voilà. Et puis, vous avez Gandalf, c'est le papy. Et Legolas, c'est l'homo. C'est le PD de la famille. Et en fait, comme on est chrétien, on l'accepte. Bon, il a les cheveux longs, il fait des phrases avec des manières, il tord un peu le poignet. Mais c'est un être humain. Et en fait, il amène du positif et il transcende son côté un peu PD pour rendre service à la Terre du Milieu. Donc du coup, quelque part, c'est la famille. Et en fait, finalement, ça reste un plaidoyer pour que tous les gens puissent trouver leur place dans la grande famille chrétienne et fassent des efforts. Et d'ailleurs, Legolas passe son film, et même dans le récit, à arrêter d'être un gaïzou. Voilà. Et à la fin, il est street. Bon, à la fin, il devient hétéro, voilà. Je suis désolé, mais à la fin, il devient hétéro, voilà. Et vous avez Gandalf, c'est papy. C'est le papy plein de sagesse qui vous raconte des histoires. Et Aragorn, c'est papa. C'est papa qui vit très très mal sa séparation avec maman, qui est Liv Tyler. Et il a quatre gosses. Il a quatre gosses qui sont Pipin, Merry, Sam et Frodon. Voilà, donc il les amène au parc, il les amène à la Cité Blanche, ils font un peu n'importe quoi, ils jouent avec un palantir. Vous voyez, quand le mec joue avec un palantir, c'est comme quand votre daron, il vous disait, touche pas le feu, joue pas avec le feu, au bout d'un moment, tu finis par te brûler. Mais c'est vraiment, ces histoires-là ne sont que des didacticiels, pour parler en termes de jeux vidéo, c'est des didacticiels pour vous apprendre à jouer aux jeux vidéo de la vie. Voilà. Les histoires, d'accord, les grandes histoires, les canons classiques de l'histoire, avec leur figure idéale, ne sont que des didacticiels pour apprendre à jouer aux jeux de la vie. Et pour pas perdre la partie au jeu de la vie. Et vous avez des histoires où on vous montre que les personnages qui poursuivent des vengeances insatiables, donc en fait qui refusent le pardon, finissent par crever de leur vengeance. Et notamment dans Gladiator. Et c'est pareil pour la quête de la possession. Finalement, regardez, Gollum, qu'est-ce que c'est ? Gollum, c'est la matérialisation de la quête de la matérialité, justement, de la quête du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, Gollum devient monstrueux parce qu'il vénère un objet plus que sa propre vie. Et en fait, il transmet sa vie, son existence, sa raison d'être dans l'anneau, qui devient son précieux. Bon. Et en fait, il meurt littéralement dans les flammes qui, en fait, enfin, je veux dire, il faut quand même avoir 4 de QI pour pas voir que les flammes, c'est l'enfer. La montagne du destin, c'est l'enfer. Quand Gollum finit avec l'anneau à la main brûlé en enfer, c'est que jusqu'à la dernière minute, il n'a pas su se dégager de la matérialité de sa vie d'être humain et va en enfer à cause de ça. Isildur, qui refuse de jeter l'anneau en enfer, amène l'enfer avec lui. Enfin, je veux dire, il y a un moment... être un enculé de fils de pute de gauche et ne pas comprendre ces symboles qui sont évidents, c'est pénible. Tous les gauchos là qui aiment le Seigneur des Anneaux, est-ce que vous vous rendez compte que Isildur amène l'enfer avec lui dans le monde en refusant de jeter l'artefact infernal qui est l'anneau en enfer? L'anneau, c'est le diable. C'est le diable qui tente les hommes. Il refuse de renvoyer le diable en enfer, donc il l'amène avec lui dans le jardin d'Éden qui est la comté, donc il amène la guerre. Il ramène la guerre. Il mord le fruit défendu. Il faut vraiment être un demeuré à 4 de QI pour ne pas comprendre que le propos du Seigneur des Anneaux est un vaste plaidoyer pro-chrétien. Donc, si vous voulez, vous avez des histoires qui gardent cette tradition d'exemplarité. Voilà. Fais attention à ne pas amener l'enfer dans le jardin d'Éden. Dieu est prêt à te donner beaucoup. Dieu donne la victoire à Isildur. Mais il la lui reprend parce qu'Isildur consacre sa victoire non pas à Dieu quelque part, mais à l'enfer et à sa manifestation physique qui est l'anneau, qui se révèle dans les flammes. Non mais attendez, les mecs qui me disent « Oh, ça n'a rien à voir avec la chrétienté !» Oui, parce qu'ils ont des voix comme ça. « Oh, mais le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir avec la chrétienté !» Ah oui, le moment où l'anneau, il projette des messages grâce aux flammes. Là où c'est grave, bande de fils de pute d'extrême gauche, hein, c'est que des mecs du Moyen-Âge auraient mieux compris le message du Seigneur des Anneaux que vous qui avez 1000 ans d'histoire compilée de plus qu'eux. C'est là où c'est très très grave et que vous êtes vraiment des handicapés mentaux. Sans manquer de respect aux handicapés mentaux. Qui sont nécessaires et qui sont une part de la création divine et qui nous rappellent à quel point nous avons de la chance quand nous avons tous nos moyens de pouvoir analyser le bien et le mal. Voilà. Donc si vous voulez, l'histoire et la figure idéale qu'elle comporte est un exemple. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé aussi à un passage, à un moment où les histoires... Il y en a tellement qui sont racontées qu'elles baissent en qualité. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait 4-5 histoires. Hein, on les écoutait 5-6 fois dans nos vies. Il y a tellement d'histoires différentes qu'elles baissent en qualité. Et je suis toujours effaré de voir des mecs qui disent « Oh putain, trop bien ce film !» Et le lendemain, ils cuquent. Le lendemain, ils retournent dans les travers. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Là, en ce moment, je suis en train de rechercher des rings de boxe pour pouvoir tourner des sparring avec des gars pour reverser de l'argent à des associations de militaires. Et je me heurte à des gens qui ont tous vu Rocky, qui ont tous vu des films qui parlent du sacrifice, de poursuivre ses idées. Ce sont des mecs qui sont fans de Mohamed Ali, qui a affronté littéralement l'administration américaine pour ne pas trahir ses idées. Bon, même s'il a quand même été, dans une certaine façon, très promu et laissé faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils admirent des mecs comme ça et ils ne le transposent pas sur eux-mêmes. Ils se disent pas, je pourrais être ce héros à mon échelle. Non, non. Ah putain, c'est vachement héroïque ce qu'il a fait. Hein. Mais moi, je peux pas te prêter de ring parce que j'ai très très peur qu'il y ait un article de La Dépêche qui dise « Oulala, tel ring a servi à... » Mais t'as peur de quoi, en fait? Comment tu peux regarder le Seigneur des Anneaux, l'avoir kiffé et faire partie de ceux qui veulent pas vexer Grima? Ben, c'est ça, en fait. Quand tu refuses que Éomer vienne faire un tournoi à cheval à tel endroit, c'est que tu veux pas que Grima te fasse des réprimandes. Bon, mais t'es du côté de Grima, alors. Donc, en fait, ferme ta gueule, ne regarde pas Seigneur des Anneaux, ne regarde pas Rocky, ne regarde pas les films qui font l'apologie du sacrifice, parce qu'en fait, t'es une énorme merde et insoumis. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. C'est que je n'ai que des gens qui me disent « Putain, génial, je suis à fond derrière toi, j'adore tes idées. » Et au moment d'en faire la preuve, il y a de la cuquerie puissance 1000. Voilà. Il y a de la cuquerie puissance 1000. Vous avez, j'ai parlé récemment d'un sportif très célèbre, pour ne pas le nommer, Benoît Saint-Denis, qui s'est fait tatouer une croix templière sur le pec et qui, en fait, m'a unfollow parce que je pouvais représenter potentiellement une critique qu'on pourrait lui adresser. Mais pourquoi tu suis Papacito sur Instagram? Voilà. Mais dans ce cas-là, faut pas regarder des chevaliers parce que eux, les chevaliers, on leur demandait pas pourquoi ils suivent, pourquoi ils ont liké la dernière publication de l'évêché de Clermont-Ferrand, tu vois. Ah, mais c'est un facho, en fait. Bah non, c'est pas un facho, c'est un croisé. Voilà. Il croit en Dieu et aux forces du mal. Il croyait en Dieu et aux forces du mal. Et ça finit à Antioche à mettre des têtes de Turcs sur des pics. Voilà. Donc, si tu veux, bon, ta gueule, en fait. Voilà. Il faut être, à un moment, si on est fan, faut pouvoir le dire. Et il faut pouvoir le démontrer. Enfin, faut pouvoir, comment dire? C'est pas qu'il faut pouvoir le dire. Faut pouvoir être capable de dire, je suis fan et je suis fan et je suis légitime à l'être. Parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai appliqué ce que me demande d'appliquer ce film ou ce que montre en exemplarité telle histoire. En fait, la distance que vous mettez entre les histoires et votre vie, elle doit être très réduite. S'il y a quelque chose qui vous a inspiré dans le film, retranscrivez-le dans vos putains de vie. Ok ? Retranscrivez-le dans vos putains de vie. Ah ouais, j'ai adoré le moment où Aragorn, il affronte les orques sans baisser les yeux. Et le même mec va voter LFI. Donc littéralement pour importer des orques dans la Terre du Milieu. C'est ça en fait, hein. LFI c'est ça. Hein. Mais le Rouen est rempli de pelouse. Il nous faut absolument, j'arrive pas du tout à bien faire Mélenchon. Mais nous on a tout, les orques, ils vivent dans un terrain dévasté. Faut vraiment tout ce qui vient en Europe, en Terre du Milieu. Oui, parce que la Terre du Milieu c'est l'Europe. Hein. Et le Mordor, qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah, ce sont des grands individus à la peau foncée qui sont dévoués à un grand mal. Il se prosterne devant une très grande tour qui fait de la lumière. Mais dans quel endroit du monde il y a une très grande tour qui fait de la lumière? Ce sont des individus qui vivent dans un désert et qui se tournent régulièrement vers une très grosse lumière en haut d'une tour. Il y a encore des musulmans pour être fans du Seigneur des Anneaux. Oh putain. Putain, à un moment ils sont au milieu de la comté. Ils volent. Le mec il fait un rêve. Il fait une vision dans le Palantir, je crois que c'est dans le Palantir. Il voit des orques en train de saccager le mobilier public à Hobbitbourg. Oh putain. Amenez-moi le semi-homme. Nique la France. Oh putain. Oh là là, putain, non mais il y a vraiment des demeurés. Hein. Il y a vraiment des demeurés, je vous le dis. Hein. Il y a des mecs qui adorent le Seigneur des Anneaux. Alors le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un très 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 long bouquin ou triptyque au cinéma pour expliquer spécifiquement que le communisme, c'est de la merde. Et pour expliquer que quand tu fais rentrer massivement des mecs qui vivent dans un désert, dans la Terre du Milieu, qui est en fait l'Europe, ça devient de la merde. Oh putain. Oh là là. Oh là là, putain. Oh là là. Ah, le fils de pute de gauche qui aime le Seigneur des Anneaux. Les musulmans, c'est plus rare parce qu'ils sentent quand même qu'il y a des trucs qui les visent directement. Oh putain. Oh. Ah putain, t'as Boromir, il est à table, il est au PMU, t'es en train de boire un verre de rouge. Mais j'en ai plein le cul des orques, moi. Et voilà, encore un orque. Et voilà, mais regardez, encore un orque. Il y a un hobbit qui s'est fait percuter par un Mercedes AMG, ben voilà, ben, et l'identité du conducteur, un orque, mais j'en étais sûr. Oh putain, Boromir, il passe son film à demander à Frodon de lui filer un anneau pour balancer une bombe nucléaire sur la mec, si tu veux, et les mecs sont là, oh, je m'appelle Rachid, je suis fan du Seigneur des Anneaux. Oh putain. Oh. Bon, je rigole évidemment, hein, je force le trait. Hein, le propos du Seigneur des Anneaux n'est pas anti-musulman, mais il est très euro-conservateur en fait. Hein, il est vraiment pour qu'à Hobbitbourg on continue à manger du fromage fondu et de la saucisse luxembourgeoise, quoi. Il y a quand même pas l'idée que c'est génial qu'un Uruk-hai ouvre un kebab dans la périphérie d'Obitbourg. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Enfin bref, voilà les amis. Donc c'est pour vous dire que toutes les histoires ont, une portée didactique et qu'en fait il faut la mettre en application dans vos vies. Voilà. Et arrêtez d'avoir des exemples desquels vous distancez. Dites-vous que vous pourriez être cet exemple. Dites-vous que vous pourriez être cette personne. Vous pourriez être en tout cas la personnification, pardon, de cette personne. Et vous verrez qu'en fait, ça va aiguiser énormément vos aptitudes. Ça va énormément aiguiser vos aptitudes à ne plus vous faire avoir parce que vous allez vous mettre, en fait, on va vous proposer des problématiques qui vont ressembler à des problématiques qu'il y avait dans tel film, dans tel bouquin. Ou dans telle épopée pour ceux qui lisent. Voilà. Et en faisant le lien, vous allez savoir comment il faut réagir. Voilà. Si on vous propose un pass sanitaire pour dans les ténèbres les lier tous et dans les ténèbres les lier je sais pas quoi là, il y a un problème. Voilà. Donc faut refuser le pouvoir du pass sanitaire, faut refuser le pouvoir du pass de l'anneau. Non mais vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Il faut avoir l'esprit spirituel et aiguisé. Et il faut se réapproprier cette capacité à avoir de la, j'allais dire de la jugeote de manière un peu barbare, mais à avoir de l'intuition. Voilà, il faut retrouver l'intuition du chasseur, de vos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il faut retrouver cette capacité à sentir qu'est-ce qui pue la merde et qu'est-ce qui pue pas la merde. Voilà, les amis. Enfin, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit podcast pour vous rappeler ces petits fondamentaux parce que je vous dis, j'ai du mal à trouver ce ring et je me rends compte à quel point il y a des gens qui me soutiennent mais qui, dans le réel, font très très peu de choses qui pourraient s'apparenter à la mise en application de ce que je mets en exergue en podcast. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu triste parce que pour se motiver à produire ce discours et ce combat, il faut qu'on voit son application dans le réel. Il y a rien de plus motivant que ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'ai vraiment à cœur l'espoir de voir ces comportements là se manifester de plus en plus. Qu'il y ait plus besoin de gourous ou de parce que ça aussi, c'est un problème, je vous ai en parlé, je vais prendre 2 minutes pour en parler, mais il y a beaucoup de gens qui me posent des questions pour savoir ce que je pense de telle chose. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que je ne suis pas... il ne faut pas que je devienne une référence pour vous absolue. Je suis un être humain avec des défauts nombreux. J'ai beaucoup de défaillances. J'ai des points de vue qui sont... ils sont biaisés par mon expérience. Et en fait, il faut multiplier les points de vue et il faut multiplier... Ne prenez jamais quelqu'un pour un messie, ne prenez jamais quelqu'un pour l'alpha et l'oméga. Le messie, on l'a déjà eu. Lui, vous pouvez prendre son message sans limite et jusqu'à plus soif, et même au-delà. Mais méfiez-vous des hommes. Voilà, méfiez-vous des hommes qui ne sont pas des dieux, ni encore moins des anges. Et il faut absolument être capable d'avoir du recul sur ce que vous entendez, sur ce que je vous dis... voir si vous, ça vous correspond, si dans vos vies, vous avez une méthode d'application, parce que Dieu sait que je suis imparfait et que certaines choses que je dis sont des conceptions qui sont personnelles et ce n'est pas l'alpha et l'oméga, la vérité. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de messages qui me demandent « qu'est-ce que tu penses de tel thème ?» qui sont des thèmes vachement importants. Et en fait, vous ne devez pas prendre ce que je vais vous dire comme unique référence. Vous devez aller creuser et vous fabriquer le plus possible une indépendance de pensée. Moi, je veux pas faire une armée de papacito, je veux faire une armée de gens indépendants spirituellement et intellectuellement. Et moi-même, je vais boire à plusieurs sources, même y compris des gens avec qui je ne suis pas totalement d'accord ou avec qui j'ai de grandes dissensions. Mais il y a certains thèmes sur lesquels ils sont très très bons. Vous savez, moi, je rate jamais une vidéo de Pierre-Yves Rougeron. Pourtant, c'est un pro-républicain, un gaulliste. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais il a des analyses qui sont extrêmement fines sur certains sujets. C'est pareil pour Aldostérone. Aldostérone, je ne rate aucune de ses vidéos. Il y a des choses qui sont vraiment très, 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 très intéressantes. Et même avec Ismaïl, avec qui vous le savez, je suis très ami. on a certaines fois sur certains sujets des visions divergentes. Alors, c'est pas des sujets fondamentaux, mais si vous voulez, ça ne m'empêche pas des fois même de recalibrer certaines de mes opinions à la lumière de ce que j'ai entendu ou de ce qu'il m'a dit ou de ce que je peux lire, vous voyez. Et c'est très important de vous fabriquer une indépendance de pensée et de pas avoir le réflexe de vous demander qu'est-ce qu'un pense un tel de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, je suis très content de vous donner des opinions. Je suis très content de vous fabriquer peut-être un socle politique pour ceux qui ne sont pas politisés. Mais je veux absolument que vous ne vous arrêtiez pas là. Et que vous continuez à aller prendre chez les uns et les autres ce qu'ils peuvent vous apporter et ce qui peut vous élever intellectuellement et spirituellement. C'est très, très, très important. Voilà, les amis. Voilà. Ça, c'était important que je vous le dise. Voilà. Et aussi, petite nouvelle. Alors, vous avez été beaucoup, beaucoup à me demander plus de live et à me demander où sont passées les grandes vidéos live que je faisais à l'époque. Vous savez, j'allais sur tel média faire des lives, tel autre média. Et en fait, maintenant que je vis en Espagne, je peux pas aller me balader en France parce que c'est très compliqué de laisser le chien et tout. Donc, j'essaie de le faire, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de live, il y a beaucoup moins d'interactions. Dans les années passées, vous aviez, alors pas l'année dernière, mais les années passées, vous aviez 4, 5 lives dans l'année. Et là, il n'y en a plus du tout. Donc, je compte refaire un live. Alors, comme j'ai pas envie que mes lives soient accessibles à tout le monde, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui reprennent mes extraits, qui en font n'importe quoi, et un public qui se nourrit aussi de ce que je vais dire en live. Parce que, si vous voulez, le live, c'est sur des questions qui vont être beaucoup plus politiques et beaucoup plus d'actualité. Et vous le savez, je veux arrêter de nourrir ce milieu avec qui j'ai pris beaucoup de distance, ce milieu de commentateurs de l'actualité. Je veux pouvoir commenter l'actualité sans que ça nourrisse des vidéos-réponses, gna gna gna, avec des extraits sortis de leur contexte. Parce que le problème, c'est dès que je m'exprime sur l'actualité, vous avez tous les tocards et les incapables, les gens qui n'ont aucune capacité de création, qui viennent commenter. Parce que comme ce que je fais est écouté, ils viennent gratter dessus de la visibilité et de manière très parasitaire. Ils viennent commenter tel extrait de tel live, voilà, en disant « Ah, mais je réponds à Papacito alors que je n'ai jamais parlé à ces gens-là ». Vous savez, ce truc de « je réponds ». Non, tu réponds pas, je t'ai pas parlé. Donc, tu ne réponds pas. On répond quand on vous a adressé la parole. Il y a plein de gens qui font vidéo réponse. Non, tu ne me réponds pas. Je ne te connais pas, je connais pas ton existence, tu n'as pas à me répondre. Voilà, il y a des fois, il y a des mecs qui font ça sur Internet, sur YouTube. Je réponds à Papacito sur « non, tu me réponds pas, on n'est pas d'égal à égal ». La réponse procède d'une discussion. Une discussion, c'est entre personnes qui se considèrent. Tu adresses la parole à quelqu'un que tu considères. Il y a des gens à qui j'adresse la parole, donc qui peuvent me répondre. Il y a beaucoup de gens à qui je n'ai pas adressé la parole, donc ils ne sont pas conviés à une réponse. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le niveau pour me répondre. Donc, si vous voulez, j'en ai marre de nourrir ce milieu-là, qui va faire des vidéos à rallonge, qui va se servir du travail que je fournis pour faire du contenu, alors qu'ils sont incapables de créer, ils sont incapables de faire ils ont aucune capacité d'improvisation. Ce sont des gens qui ont toujours besoin de commenter quelque chose et ils se nourrissent de ça. Ce sont des parasites. Hein. Et donc, si vous voulez, je vais lancer des lives privés, donc évidemment payants. Je vous rassure, hein, à prix très symbolique, pour que ça fasse le tri. Parce qu'en fait, il y a plein de charognards qui ne paieront pas. Donc, c'est très très bien. Et je pense faire un tarif symbolique, genre le prix d'une place de ciné dans les années 90. Donc, j'avais regardé, c'était à peu près 3,20€. Bon, 3,20€, c'est pas la fin du monde, pour un live et peut-être des bonus. Je vais voir si je pense mettre un podcast. Je ne passerai pas les podcasts en payant, hein, mais je pense sur les 4 podcasts, je pense en mettre un uniquement pour les abonnés. Voilà. Donc, on va faire un truc comme ça avec un live par mois et un podcast exclusif pour les abonnés. Donc, un bon live, un bon gros live avec de l'interaction. Parce qu'en fait, c'est ça que vous me reprochez un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction. Qu'en fait, vous ne puissiez pas me poser des questions, qu'il y ait ce côté « je vous lâche un live » et il n'y a pas possibilité de me poser des questions ou de me faire rebondir sur tel sujet. Le problème, c'est que souvent, vos questions portent sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, ce que je rechigne à traiter de manière publique. Parce qu'en fait, ça nourrit des gens que je déteste. Donc, je vais faire des trucs privés, sans doute sur Patreon. Ça me permettra de me faire un revenu annexe un revenu fixe annexe et de prendre le noyau dur de la communauté et de répondre à vos questions plus directement. Parce que je sais que vous avez souvent envie que je rebondisse sur l'actualité et je ne le fais jamais ou très très peu. Enfin, je le fais pas jamais, mais je le fais très très peu en podcast. Donc voilà, je vais mettre ça en place. Je sais pas encore quand, peut-être. courant novembre, il faut que je me renseigne sur la façon dont fonctionne Patreon, mais dans l'idée, ça serait ça. Ça serait pour une place de ciné, au lieu d'aller voir un film dans les années 90, vous avez accès à un podcast gratuit, un podcast pardon exclusif, excusez-moi, pas gratuit, exclusif, et un live avec de l'interaction et la possibilité de me poser des questions sur l'actualité ou des problématiques peut-être qui vous affectent un peu plus personnellement et de pouvoir y répondre. Ça serait un peu ce concept de live YouTube, mais en fait je ne peux pas le faire sur YouTube parce que ça sauterait immédiatement. Donc voilà, et mon Instagram, j'ai tout le temps, dès que je fais un live, ça coupe, hein. J'ai tout le temps des restrictions dessus, je peux pas le laisser sur Instagram en accès parce que en fait au bout d'un moment ça saute. Donc l'idée ça serait de faire ça. Voilà, donc je vais me renseigner un petit peu là-dessus et sans doute lancer ça pour le prix symbolique de 3,20€, qui est le prix d'une place de ciné dans les années 90 en francs. Voilà, je trouve ça rigolo. Donc on aura, et puis on sera beaucoup moins aussi. Je préfère faire un live pour par exemple si vous êtes 1000 personnes en live et que là je pourrais plus facilement répondre à vos questions. Quand je fais des lives publics, il y a 50% du live, il y a 50% des questions qui sont du troll, de mecs qui viennent, qui ont jamais la possibilité de me parler, donc qui viennent profiter des lives pour troller, ou qui sont des types qui spamment des trucs inintéressants. Donc voilà, ça serait aussi le moyen de faire des lives pour les gens qui mérite que je prenne 3 heures pour discuter de tout ça. Voilà les amis. Rien de plus. Donc je vous ai fait cette petite annonce. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie vraiment pour toutes vos écoutes qui sont de plus en plus nombreuses. On va rentrer doucement dans la période de l'Avent. Vous savez que pour moi, la période de l'Avent, ça commence à la Toussaint. Hein. Pour moi, début novembre, ça y est, c'est bientôt Noël parce que je suis un énorme enfant. Donc, je pense qu'à partir du 15 novembre, on fera des podcasts spéciaux thématiques un petit peu de l'Avent, qui est ma période préférée de l'année. La période où on regarde Danse avec les loups à la télé et Robin des Bois et Kevin Costner en suivant, en buvant des chocolats chauds dans les années 80-90. Voilà, on va revenir à ça et on va faire l'apologie de tout ça. Et donc j'aurai plein de trucs à vous raconter à ce moment-là. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petit podcast qui me semblait nécessaire face à la dure réalité de la non-application des histoires et des figures qui vous transcendent dans le réel. Voilà. Faites un petit effort là-dessus. Plus on sera à faire cet effort, plus on verra se réaliser les bienfaits des grandes épopées qu'on aime dans le réel. Voilà les amis. Et moi, j'ai envie de vivre dans la terre du milieu libérée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous. À très bientôt les amis. Bon dimanche.